Bonjour. Le gouvernement doit revoir à la hausse les salaires des enseignants, leur offrir des meilleures conditions de travail. C'est ce que demandent les syndicats des enseignants catholiques. Sinon, ils arrêteront le travail. L'Église catholique, on se rappelle, avait demandé au gouvernement de reprendre la prise en charge des enseignants. Les parents supportent depuis quelques années cette charge. À ce jour, le gouvernement n'a pas encore répondu. À Bounia, des mineurs se sont rendus coupables d'assassinats, détention d'armes, de guerres, extorsions et autres infractions. Que faire face à la gravité de ces infractions lorsque la législation congolaise n'autorise pas la mise en prison des mineurs? Une situation complexe qui embarrasse parfois les juges. Selles fréquentes, vomissements, amaigrissements rapides pouvant se terminer par la mort, ce sont là les symptômes du choléra, appelé aussi maladie des mains sales. La situation prévaut à Bukavu, principalement à Kadutu et dans ses environs. Des appels au respect des règles d'hygiène sont lancés quotidiennement sur les radios locales. Plus de 800 travailleurs se retrouvent au chômage à Mangina. Nous sommes à 30 km à l'ouest de Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, province du Nord-Kivu. La société qui les employait, Dara Forêt, vient de fermer ses portes. Installée à Mangina depuis 1999, cette société s'occupait de l'exploitation et de la transformation du bois. Au Cap-Action, la vie au quotidien, comme elle va en République démocratique du Congo, nous allons parcourir, réagissez, participez, agissez.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Trop, c'est trop, on pourrait le dire, c'est le message du syndicat des enseignants catholiques. Il voudrait que le gouvernement reprenne sa charge à bras-le-corps. Cette charge consiste à la paye régulière des enseignants, mieux à l'amélioration des salaires et des conditions de travail. On se rappelle, il y a quelques mois, l'Église catholique avait déposé un mémo auprès du gouvernement pour lui demander de prendre ses responsabilités vis-à-vis des enseignants. À ce jour, le gouvernement n'a encore rien dit. Cet ultimatum avait expiré au mois de décembre 2004, il y a 3 semaines. Quelle est la situation aujourd'hui? Dona Madimba s'est rendue dans quelques écoles conventionnées catholiques.
Midi 30, ce 18 janvier 2005, fin des cours au collège Boboto, école primaire. Dans la cour, c'est l'agitation suscitée par des élèves qui affluent et des parents venus récupérer leurs enfants. Une ambiance qui annonce sans doute le retour à la maison, ambiance qui signifie surtout qu'au collège Boboto, l'enseignement se poursuit normalement et à la grande satisfaction des parents d'élèves.
Ici, puisqu'on paye, je pense que tout est inclus là à l'intérieur des Minerval et tout, nous payons hein, à chaque fois. Puisque nous voyons aussi l'évolution des enfants. Quand vous voyez que les enfants sont bien enseignés, bien formés, pour payer l'argent, on doit se débattre à 1000 morceaux pour payer cet argent. Nous voyons quand nous payons la motivation, nous voyons comment est-ce que les enseignants c'est de même.
Mais avec le mémorandum de la conférence épiscopale du Congo adressé en fin d'année au gouvernement, mémorandum qui fixait la fin de la prise en charge des enseignants par les parents au 31 décembre 2004, l'enjeu aujourd'hui, c'est savoir ce que pense l'opinion à ce sujet. Quelques parents rencontrés à Kinshasa donnent ici leur point de vue.
Nous sommes favorables à la suppression de la prime des parents parce que nous pensons que l'État doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas les parents qui doivent payer la prime pour les enseignants.
Pour moi, ça ne sert à rien. Avant qu'on puisse enlever cette prime, il faudra que l'État puisse faire les premiers pas, commencer déjà à améliorer ce que les parents contribuent, l'État commence à payer, et ensuite les enseignants, mais à ce moment-là, on va dire aux enseignants, voilà, l'État a déjà majoré, donc les parents peuvent se reposer, ne peuvent plus payer. Mais suspendre directement, moi je ne suis pas d'accord, je ne vois pas, avec notre État, je ne suis même pas sûr si on va motiver. Ça c'est pour démotiver les enseignants. Ça ne sert à rien. Oui, l'épiscopat a pris une bonne décision puisqu'il voit la modicité des salaires des parents.
Mitigé certes, mais ces points de vue rencontrent en partie la préoccupation des enseignants catholiques. Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat des enseignants catholiques.
Si le gouvernement ne fait rien, eh bien nous serons en droit de pouvoir revendiquer. De pouvoir revendiquer notre droit à l'employeur, parce que les parents ne sont pas vraiment l'employeur des enseignants.
Cela signifie-t-il que vous allez peut-être envisager une grève ou que vous allez malgré ça continuer à enseigner?
C'est-à-dire pour nous, l'option ce n'est pas la grève. Pour nous, nous devons continuer à travailler. Et si l'État aujourd'hui nous dit que non, nous allons étudier ce que nous vous avons promis et nous sommes capables de vous donner tant soit peu, eh bien nous allons continuer le travail parce que nous devons aider la jeunesse à aller de l'avant. Mais si l'État ne fait rien, je vous rassure, au mois de janvier, parce qu'il y a déjà des tensions partout, au mois de janvier d'ici à la fin en tout cas, dans nos différents états-majors, eh bien nous allons déclencher l'irréparable, c'est-à-dire la cessation collective du travail. Et cela ne va pas tarder si le gouvernement s'entête.
L'appel étant lancé, au gouvernement d'apporter des solutions là où elles sont nécessaires. Pour le moment, le gouvernement traîne encore à concrétiser le contrat de Mboudi qui l'engage à revoir à la hausse le salaire à la fonction publique, mais aussi il traîne à répondre au mémorandum de la conférence épiscopale du Congo.
Et voilà, le gouvernement devrait revoir à la hausse le salaire des enseignants et leur offrir des meilleures conditions de travail. C'est ce que demande le syndicat des enseignants catholiques. Sinon, il y aura arrêt de travail. L'Église catholique avait demandé, on le sait, à travers un même mot, avait demandé au gouvernement de reprendre la prise en charge des enseignants. Cette charge est supportée depuis quelques années par les parents. Jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a pas encore répondu au mémorandum de l'Église catholique. Mais pour se remettre dans le contexte de cette décision de l'Église catholique, vous proposons d'écouter Monsieur l'abbé Fulgence Muteba, secrétaire général de l'Épiscopat catholique.
Les évêques ont constaté qu'il y a 30% de nos enfants qui n'accèdent pas à la scolarité, tout simplement parce que leurs parents n'ont pas d'argent. Et ça, c'est dramatique, voyez-vous. S'il faut prolonger cette décision de 5 ans ou de 10 ans encore, nous allons passer de 30 à je ne sais pas combien de pourcents. Alors, ça signifie qu'il est important de prendre les mesures qui s'imposent, étant donné que le droit à l'éducation, c'est un droit élémentaire, et que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour que les enfants puissent accéder au savoir. Alors c'est ainsi que les évêques ont proposé la suppression de cette fameuse prime. D'autant plus que les parents sont harassés, ils sont éreintés, ils sont fatigués de payer ces frais, ils n'ont pas cet argent-là. Alors les évêques ont donné 6 mois à l'État de prendre ses dispositions, ce que je trouve très patriotique, parce que, évidemment, en 6 mois, on peut faire beaucoup de choses. Donc, 6 mois de préavis, ce qui me paraît très raisonnable. Et pendant ce temps, ils ont dit que l'Église était ouverte au dialogue. Et le dialogue a eu lieu. Nous avons reçu différentes personnalités du gouvernement qui sont impliquées dans ce dossier ou qui ont, dans leurs attributions, le problème de l'éducation, et ces personnalités nous ont assuré que des dispositions budgétaires ont été prises dans le budget justement qui va être voté par le Parlement, le budget de cette année, pour que l'État puisse s'acquitter de ses devoirs.
Okapi, le souffle du Congo. Okapi.
Voilà, au Capi Action, vous avez entendu tout à l'heure le contexte de cette décision de l'épiscopat catholique pour demander au gouvernement de pouvoir reprendre ses responsabilités en ce qui concerne la paye des enseignants. Donc, on l'a entendu et pendant que nous l'écoutions, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Monsieur Darombel, faisait son entrée en studio. Monsieur le ministre, vous pouvez vous rapprocher du micro. Monsieur le ministre, bonne année et bonjour.
Bonjour.
Il y a cette situation qui est connue, que vous connaissez sûrement, parce que les mémos avaient été introduits auprès du gouvernement dont vous faites partie depuis le troisième trimestre de l'an 2004. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore répondu au mémorandum des évêques catholiques. Pourquoi?
Merci de m'avoir invité et merci de me donner l'occasion de pouvoir peut-être éclairer un peu l'opinion. Je voudrais tout de suite vous dire qu'il ne faut pas faire de ce problème un sujet électoraliste. Et sincèrement, c'est un sujet extrêmement important qui engage l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Je crois qu'il faut aborder avec tout le sérieux qui s'impose. Je suis étonné d'apprendre que le problème de la prise en charge ou sa suppression commence avec la lettre des évêques. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire.
On a juste dit rappeler qu'on avait ce
Non,
mémo.
non, je voudrais vous rafraîchir la mémoire.
Oui, je vous en
Faut
prie.
pas attribuer la paternité aux évêques et qui ont effectué une démarche complémentaire, justifiée. Mais ce ne sont pas les évêques qui ont réclamé la suppression de cette prise en charge en premier lieu. Le problème s'est posé d'abord au mois de janvier 2004
2004.
par les syndicalistes de l'enseignement et qui ont, dans un mémo, demandé, saisi le ministre de l'enseignement primaire et secondaire que je n'étais pas, pour demander la suppression. Pourquoi? Parce que les enseignants qui bénéficiaient de cette prise en charge ont constaté que la prise en charge avait produit des effets pervers.
C'est-à-dire?
Je voudrais citer, entre autres, le fait que d'abord le taux de cette prise en charge était diversifié. Selon qu'on était à Kinshasa ou on était à l'intérieur, selon qu'on était dans une école catholique ou dans une école publique, on n'avait pas les mêmes taux. Et par conséquent, les enseignants n'avaient pas les mêmes traitements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le taux, la prise en charge avait pratiquement détruit l'autorité des enseignants sur des élèves. Mettez-vous dans la situation d'un enfant qui sait que le papa a payé les salaires à cet enseignant et que l'enseignant doit le commander, et très souvent on a assisté à des situations tout à fait déplorables. Donc ça, c'est le deuxième effet pervers. Troisième effet pervers, c'est les parents eux-mêmes qui n'acceptaient pas que leurs enfants, après avoir payé la prise en charge, puissent échouer. Donc il fallait distribuer des points, dont le point était lié à la manière de payer la prise en charge, selon qu'on était régulier ou pas.
Vous voulez insinuer le
Troisième,
monnayage
tout à fait, tout à fait.
d'évaluation des élèves.
Et en bref et en résumé, la prise en charge avait détruit la qualité de l'enseignement. Ça, c'est mon constat. Donc, il fallait coûte que coûte, il fallait coûte que coûte supprimer cette prise en charge. À cela s'ajoute, bien entendu, il y a une dernière considération, c'est que les parents qui nous demandons la prise en charge, leur pouvoir d'achat était si faible que cela semblait tout à fait injustifié de continuer à leur demander cela.
Mais cette situation,
Ça, c'est non, ça c'est au niveau de l'historique.
Oui, historiquement.
Donc, d'abord, les syndicats des enseignants. Deux, ça c'est au mois de janvier 2004. Deux, au mois d'août 2004, sous mon initiative, j'ai organisé un atelier sur la rentrée scolaire qui regroupait tous les partenaires de l'éducation.
C'était l'atelier du centre Nganda?
Pas du tout. C'était au cercle français.
Ah, ok, d'accord.
Donc, cet
À la
atelier,
Gombe.
l'une des recommandations de cet atelier, c'était la suppression de la prise en charge.
Tu devais courir à partir de...
Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas mis de délai. Ils ont souhaité que ça soit supprimé. Les évêques ont écrit seulement au mois de septembre.
J'ai bien précisé dans le dernier trimestre.
Le mois de septembre, alors, je ne peux pas comprendre que vous puissiez aujourd'hui en faire des choses graves pour l'attribuer. Attendez.
Oui.
Donc, c'est là l'historique de la lutte contre la suppression.
C'est l'effet, c'est la décision.
La décision est là aussi. Oui. Et je suis étonné que vous ne soyez pas au courant. Vous êtes au courant du mémorandum, mais vous n'êtes pas au courant de la décision du gouvernement.
Quelle est la décision alors?
La décision du gouvernement, le mémorandum m'était adressé. Mm-hmm. J'ai estimé que la suppression de la prise en charge avait des conséquences à des niveaux. La prise en charge intervenait pour pouvoir suppléer au manque à gagner des enseignants, les salaires.
Ce qu'on appelait une sorte de démission du gouvernement vis-à-vis de ces
enseignants. Oui, mais là on reviendra. Je voudrais d'abord citer le problème.
Oui.
La deuxième conséquence, c'est que, parce que la prise en charge aussi intervenait pour au niveau des frais de fonctionnement des écoles. Mm-hmm. Donc cela suppose que les deux éléments doivent être pris en compte dans le budget. Donc il n'y a revenait pas au ministre de l'Enseignement que je suis de décider en lieu et place du gouvernement. J'ai amené le dossier et j'ai présenté le dossier qui a été accepté. Le gouvernement a suivi ma plaidoirie, donc on a accepté la suppression de la prise en charge, mais qui devait prendre effet au mois de janvier.
Pourquoi
au mois de janvier 2005?
Ce mois-ci,
pourquoi au mois de janvier? Je viens de vous dire que cette suppression entraîne des effets au niveau du budget. Le budget 2004 ne le permettait pas, il était déjà voté. Donc il fallait insérer les deux rubriques dans le budget 2005. Au moment où je vous parle, le budget 2005 a été adopté par le gouvernement. Il reste à être approuvé par le Parlement pour qu'il soit exécutoire. Donc ça veut dire que il est simplement une question de modalité pour l'application. Donc où est le problème? Pourquoi veut-on en faire un sujet aujourd'hui au même titre que les élections?
Il faut quand même reconnaître, monsieur le ministre, que dans l'historique que vous nous avez rappelé, que le mémo du syndicat des enseignants catholiques date d'une année maintenant, qu'il y a eu toute cette évolution, mais attendre.
Mais pendant le budget de 2004 a été voté quand? Je vous dis que la suppression a une incidence budgétaire. Dans la mesure où le budget 2004 était déjà voté, on pouvait prendre n'importe quelle décision, ça ne pouvait pas être exécuté. C'est pourquoi on a pris une décision pour que ça soit exécuté au niveau du budget 2005.
Donc à ce mois de janvier, ça sera effectif?
Pour le gouvernement, le problème est terminé. Et le problème se trouve maintenant au niveau de l'approbation. Et je ne pense pas que l'Assemblée nationale puisse revenir en arrière. Parce que quand Mme Élysée avait été interpellée au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, elle venait de quitter l'ancien ministre de l'enseignement primaire. Et au moment où elle devait répondre, elle venait d'être déchargée de ses fonctions. C'est moi qui ai répondu. Et l'Assemblée nationale aussi est revenue là-dessus. Donc je ne peux pas imaginer un seul instant que le budget tel que nous l'avons présenté à l'Assemblée nationale puisse être amendé dans le sens de la baisse par l'Assemblée nationale qui a souhaité cette suppression. Tout ce qu'on peut espérer à ce stade-ci, c'est que l'Assemblée nationale puisse revoir cela dans le sens de la hausse.
Et face à l'urgence aussi.
Absolument.
On va écouter une réaction d'un auditeur qui réagit sur la question en examen.
Dans la comité de parents, oui, bah, ça, bah, tu vois, bah, zida, bah, zida, vimbani, ma boumou, pona, mongo, biso, bah, par, bah, yébiko, défendre, biso, té, po, bango, bah, sokulia, mais biso, bah, par, te, soko, souffrir. Ngana, zolo, bah, wana, zana, bah, na, soki, kombe, na, classe, awa, bah, bah, sous, bah, vandi, na, banda. Hein?
Monsieur le ministre, une réaction?
Non, mais il n'a même pas posé de questions.
Il a donné un point de vue.
S'il m'avait suivi, je suis sûr et certain qu'il n'allait pas réagir tel qu'il le fait. Et je voudrais vous dire aussi, soulever une situation paradoxale. Au moment où nous prenons la décision où on avait pratiquement pris la décision de supprimer. Je voudrais vous apprendre que dans certaines écoles, y compris les écoles catholiques, ils ont déjà perçu la prise en charge pour une année. Pour une année.
Et je voudrais,
oui. Donc nous allons supprimer. Et ce qui a été perçu, est-ce que l'Église catholique va retourner ça aux parents? Écoutez, moi je suis un homme responsable. Je n'aime pas la surenchère. Et mon tempérament d'ailleurs ne m'autorise pas. Mais je voudrais que, dès lors que je me suis engagé, quand je suis entré dans ce ministère, j'ai mené ce combat qui est arrivé pratiquement à son terme. Il faut qu'on laisse les choses aller pour l'exécution. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de débat. C'est un faux débat.
Donc ce que nous retenons, c'est qu'il faut deuxième
paradoxe. Il y a des parents qui s'organisent pour s'opposer à la suppression. Je vous l'apprends. Donc l'État a pris la décision de supprimer. Il y a des parents qui s'organisent, qui sont contre la suppression.
Pour quelles raisons selon vous?
Mais ça c'est à eux, il faut leur poser cette question. Moi je ne suis pas à leur place.
S'il y a un parent qui est contre la suppression...
Donc oui, en ce qui me concerne, je me suis fixé un objectif.
Lequel?
Il faut réhabiliter l'enseignement. Et cela passe par enlever toutes ces entraves, dont la prise en charge, qui était vraiment une des raisons majeures de distribuer des points aux élèves dont les parents payaient le plus gros morceau.
Vous avez dit une bonne chose tout à l'heure, qu'au niveau du gouvernement, vous avez déjà accepté le principe de la suppression, que le dossier est clos au niveau du gouvernement.
Oui, tout à fait.
Je me rappelle la dernière fois qu'on parlait de ce sujet sur cette antenne, vous nous aviez dit dans un son que le dossier était en traitement au gouvernement. Ça, c'est une chose qui reste au Parlement de décider et que vous souhaitez qu'il aille au-delà du montant que vous auriez souhaité. C'est l'occasion pour moi de vous soumettre quelques préoccupations des auditeurs. Directeur d'école qui s'appelle Kingé, qui nous appelait du Kananga. Nous avons souffert pendant 10 ans, écrit-il. L'argent que nous gagnons n'est qu'une injure. Si le gouvernement avec l'irréparable arrive, nous avons l'habitude de souffrir. Mais cette fois, si je pense qu'on préférera souffrir chez nous en famille, pour qui prenez-vous un enseignant? Il est presque fâché. On ne peut même pas chasser un enfant quand on veut le punir parce qu'il paye les frais ou sa prise en charge. Vous avez évoqué la question. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, l'argent que nous gagnons n'est qu'une injure. Ça me permet de vous poser la question suivante. Quel est le montant, l'enveloppe, si vous voulez, que vous avez prévu pour une nouvelle unité, un enseignant qui vient de commencer?
Non, normalement, l'éclatement, nous n'avons pas encore éclaté l'enveloppe générale. Je voudrais vous dire que de 2 milliards, l'enveloppe pour rémunération est passée à 5 milliards, ce qui est énorme. Ce qui est normal. Donc, parce que je vous disais que la suppression de l'emprise en charge va produire, aurait des incidences sur le budget.
Évidemment, oui.
Cela veut dire que nous devons augmenter les salaires. Et cela veut dire que nous devons payer les frais de fonctionnement des écoles, y compris les primaires et les secondaires. Donc, et puis au niveau de frais de fonctionnement du ministère comme tel, de 23 milliards, nous sommes passés à 32 milliards. Ce qui est énorme. Et je vous dis que je suis le ministère le plus gâté du gouvernement qui, pour la première fois, et dans l'histoire de notre pays, pendant une transition, de voir que le gouvernement accorde une attention soutenue dans ce secteur-là. J'en suis très fier.
Pourquoi vous avez l'impression qu'il y a des gens qui font de ce dossier une surenchère électorale?
Non, mais parce que d'abord, on va par l'information. De faire des déclarations qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas justifiées.
La réclamation des syndicats des enseignants n'est pas fondée?
Non, ils doivent. Les syndicats sont mes partenaires. Et je ne leur ai jamais fermé ma porte. Ils pouvaient, et ils ont le droit de venir d'abord me demander où nous en sommes, plutôt que d'aller dans la rue. Et nous sommes un ministère de l'excellence. Et je n'entends pas du tout qu'on puisse pratiquement ternir l'image de ces ministères. Donc les enseignants savent très bien, et je voudrais bien qu'ils me contredisent, qu'à tout moment, quand ils m'ont demandé de me rencontrer, j'ai toujours accepté. Donc ils ont le droit de venir s'informer plutôt que de faire des informations qui risquent d'être récupérées par les politiciens. Il y a mal de positionnement, excusez-moi.
Monsieur le ministre, le pays est très vaste et il nous écoute partout là, à travers la République démocratique du Congo. La situation à l'intérieur du pays, nous recevons des enseignants de l'intérieur, des courriers, ils réagissent à nos appels au téléphone. Il y en a par exemple qui changent d'une école A, il va dans une école B, mais son salaire ne suit pas. Et la personne qui l'a remplacé dans une autre école continue à percevoir son salaire. Et la nouvelle personne qui a juste été permutée ne perçoit rien, et leur salaire, disons, la quote-part que le gouvernement donne n'arrive pas toujours à temps. C'est autant de problèmes auxquels ils sont confrontés.
Mais je voudrais d'abord, justement, je pense qu'il y a un problème de communication. Quand je suis arrivé, j'ai constaté effectivement qu'il y avait beaucoup d'abus. Pour un salaire maudit qu'on paye aux enseignants, ce salaire très souvent n'arrivait pas.
C'est moins autour de 10 dollars,
parce l'équivalent. Parce qu'ils s'opéraient beaucoup de retenues. Ça commençait au niveau de Kinshasa, ça allait au niveau de la province, jusqu'à arriver aux bénéficiaires, et ce n'était pas normal. C'est des retenues injustifiées et illégales. Il fallait mettre fin à cela.
Pour cela,
j'ai obtenu du gouvernement que l'on supprime les paiements par le comptable d'État et que l'on institue les paiements par les comptes des associations gestionnaires des écoles. Au moment où je vous dis, une instruction a été donnée au niveau des catholiques, des protestants, des musulmans et toutes les autres associations d'ouvrir les comptes pour recevoir les fonds destinés à la rémunération de leur personnel. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes en train d'amorcer aussi un contrôle. Il est impensable que l'on puisse payer un établissement au nombre des postes et non pas par rapport aux individus qui sont à l'intérieur. Je voudrais m'expliquer. Mm-hmm. Une école doit normalement avoir 12 personnes pour dispenser l'enseignement. On paye les nombres. On ne paye pas M. Évariste ou M. Mokenge ou M. Ceci. Donc, à tel enseigne, si M. Évariste quitte cette école, les postes continuent à être payés. C'est impensable.
Et quand il arrive dans une autre école,
mais il ne sera pas payé. Parce que, non, il n'est pas dit. Et si l'école est fermée, on continue à payer. Il faut qu'une autorité passe par là pour constater que l'école n'existe plus, qu'on ne peut plus payer. Mais il faut compter le nombre de journées dans ce pays pour pouvoir renseigner de manière simultanée comme quoi l'école n'existe plus. C'est pourquoi j'ai amorcé aussi une démarche pour mettre fin à cela. On doit payer individuellement la personne pour éviter de tels abus. Et ça veut dire quoi?
Organiser un contrôle physique?
Non. La première démarche a été d'abord de restructurer les services provinciaux. C'est-à-dire de créer de nouvelles divisions pour approcher l'administration des écoles. Cela permettra à chaque école de faire la déclaration de ses enseignants. Gare à celui qui ne le fera pas, parce qu'à ce moment-là, les enseignants ne seront pas payés. Et les enseignants s'en prendront à lui. Pour moi, il ne s'agira plus jamais de payer les postes, mais on payera les individus.
En fonction de leur numéro matricule.
Tout à fait, tout à fait.
Nous avons une réaction de notre auditeur, monsieur le ministre.
Oui, à suivre l'intervention du ministre, je voudrais savoir sur la suppression de la prime de prise en charge des enseignants par les parents. Est-ce sur l'initiative du ministre ou des évêques catholiques? Et à quand l'approbation de ces suppressions, puisque nous tendons déjà vers la fin de l'année? Je crois que cette loi va durer. Nous arriverons jusqu'au mois de novembre et rien ne sera fait. Je voudrais un peu avoir la réaction du ministre, s'il vous plaît. C'est Pierrot Kamoy, de Lumbashi.
Mais, monsieur le ministre,
monsieur Pierrot, je voudrais encore revenir là-dessus. Je constate que vous n'étiez pas au début de l'émission. La décision du gouvernement est intervenue au mois de septembre.
Disons, c'est pas la décision du ministre, mais la décision
du gouvernement. C'est la décision du gouvernement. C'est le ministre qui a présenté le dossier, parce que cela dépasse les compétences du ministre. Au mois de décembre, on a décidé de la suppression, mais nous avons rendu opérationnelle cette décision au mois de janvier.
Pour ce mois de janvier 2005.
En principe. Pourquoi? Parce que le budget 2004 se terminait déjà au mois de décembre. Alors, comme je le disais, la suppression a eu une incidence budgétaire et que le budget 2004 était déjà terminé. Donc il fallait inscrire ces incidences, prendre en compte ces incidences dans le budget 2005. Le budget 2005 vient d'être élaboré. Il a été adopté au niveau du gouvernement avec, en tenant compte des conséquences de cette suppression. Je venais d'indiquer qu'au niveau des masses salariales des enseignants, nous avons eu une enveloppe substantielle, vraiment conséquente, et que même au niveau des frais de fonctionnement également. Donc, à notre niveau, au niveau du gouvernement, la mission est terminée. Il reste que pour que le budget soit exécutoire, opérationnel, il doit être approuvé par l'Assemblée nationale. Au moment où je vous parle, la loi budgétaire se trouve sur la table de l'Assemblée nationale. Je crois dès la rentrée, ce sera la première loi à être votée par le Parlement. C'est à ce moment-là qu'elle va être opérationnelle. Donc, espérons que ce soit au mois de février.
Mais, Monsieur le ministre, le secrétaire général du syndicat des enseignants catholiques nous a dit, nous l'avons entendu tout à l'heure sur nos antennes, que d'ici la fin du mois de janvier, ils vont mobiliser leurs états-majors des syndicats pour déclencher une action de grève.
Mais c'est pour ça que je vous parle de l'électoralisme. Ça n'a strictement rien à voir.
Mais il réclame ça depuis 2004, monsieur le ministre, il n'y avait pas encore les élections.
Mais le salaire des enseignants, depuis quand il a été modifié, que nous avons finalement, grâce à notre arrivée, nous l'avons relevé. Ça date depuis combien d'années? Il y a combien d'années que les enseignants, beaucoup d'enseignants à l'intérieur ne recevaient plus les salaires? Cela ne justifie rien du tout, ce n'est pas le droit.
Mais est-ce que du fait qu'on avance vers les élections, ça empêche le droit de réclamer son salaire?
Mais réclamer quoi, monsieur? Nous sommes en train de parler de la prise en charge.
Oui, oui.
Mais ils vont déclencher la grève pour réclamer quoi, puisqu'elle est supprimée, parce qu'il s'agit simplement de problème de modalité. Et deuxièmement, je viens de vous dire que dans les écoles catholiques, ce sont les mêmes syndicalistes catholiques qui me l'ont dit qu'on a tout payé, la prise en charge. Ils réclament, ils font le mouvement contre qui? Contre ceux qui ont déjà perçu leur coordination ou contre nous qui avons déjà supprimé? J'aurais voulu qu'ils marchent pour que la coordination restitue cet argent-là aux parents. D'accord? Dites ça au secrétaire général des syndicats.
Il nous attend. Jody, je crois que c'était dans un paquet, un reportage complet de Donna, si on peut trouver un extrait comme ça. Comme ça, le ministre peut répondre et écouter clairement ce qui a été dit pour ne pas prêter à confusion. Entre-temps, Bibiche, qui nous appelait de Kisangani, qui dit bon, pourquoi ne pas payer comme il faut les enseignants pendant que le gouvernement dépense pour, je cite, c'est Bibiche qui l'a dit, des futilités. Fin de citation, c'est le terme de Bibiche, une auditrice de Kisangani. Ils prennent en charge les joueurs et les autres pendant. Tous ont besoin des enseignants pour le devenir de demain. On doit d'abord s'occuper des enseignants avant tout. C'est un point de vue d'une auditrice de Kisangani.
Mais c'est pour ça que j'ai dit que si sincèrement il est de l'enseignement, c'est qu'il n'a pas suivi tous les efforts que nous avons déployés pour pouvoir améliorer les conditions sociales des enseignants. Parce que le salaire qui touche aujourd'hui, ce n'est pas le salaire qui touche demain. Et ce ne sera pas le salaire qui touchera hier, ça ne sera pas le salaire qui touchera demain.
C'est quelle proportion en termes de pourcentage que l'enseignant touchera dès l'exécution de la décision du
gouvernement? Normalement, si entre le barème de Mbudi et les propositions que nous avons faites, le minimum est de $50. Le barème de Mbudi parle de 200 et quelques. Donc vous voyez, il y a une progression et on part de $10.
Vous partez de 10 à $50.
Donc nous sommes en train de.
C'est la proposition du gouvernement.
Et aujourd'hui, non, ça c'est la proposition, la masse qu'on a mis à la disposition du gouvernement, de mon ministère.
Ok.
La commission qui étudie l'application de barème de Mboudi est à pied d'œuvre au niveau de la fonction publique.
En attendant la mise en œuvre de Mboudi, l'enseignant aura au minimum $50.
Oui, nous sommes en progression.
En espérant que le Parlement lève la barre plus haut.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, monsieur, dame Daoumbel, je rappelle que vous êtes ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je dois vous avouer que votre intervention a été suivie par des milliers de personnes qui sont intéressées par la question, de par l'extension des radios Capus sur toute l'étendue du territoire. N'hésitez pas à revenir, nous n'hésiterons pas à venir vous voir aussi pour avoir les bonnes réponses aux questions pertinentes qui se posent au niveau de l'organisation de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel.
J'en suis conscient, je vous remercie, mais je voudrais simplement un dernier mot.
Oui.
dire que j'accepte toutes les revendications, y compris celles qui visent l'enseignement en général, pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il n'y a pas que des salaires. Il y a aussi le problème des livres, du programme.
On y reviendra. Donc, parce que ça c'est une autre question, un sujet qui nous préoccupe aussi. Bonne année encore et plein succès dans la réalisation de vos projets.
Je souhaite bonne année à tous ceux qui nous suivent.
Merci. À tous les enseignants. Un mot pour tous les enseignants qui vous écoutent.
Mais bien sûr, moi je me préoccupe plus d'eux que d'autres choses. Merci beaucoup.
Au revoir. Et voilà, au Capi Action, ce sujet qui a préoccupé beaucoup d'auditeurs, qui vous préoccupe encore, vous êtes encore nombreux à réagir et à écrire. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a promis de revenir sur nos antennes pour continuer à répondre aux différentes préoccupations. Donc, n'hésitez pas, continuez à envoyer vos préoccupations. Elles constitueront les principales questions que nous poserons directement au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. À présent, restons dans le même domaine, si vous voulez, à parlant des enfants qui sont plutôt à Bounia. Des mineurs se sont rendus coupables d'assassinat, détention d'armes de guerre, extorsion et autres. Que faire face à la gravité de ces infractions alors que la législation congolaise n'autorise pas la détention des mineurs? Il s'agit d'un décret signé en 1950. Parmi les mesures judiciaires spécifiques applicables aux mineurs, les mineurs doivent être placés dans des structures appropriées. Ces structures n'existant plus, les mineurs sont détenus ou emprisonnés dans les prisons avec les adultes. Cette situation complexe embarrasse parfois et souvent les juges. Pour parler de la situation à Bounia, nous joignons notre confrère Rigobert Yumandouani. Bonjour.
Bonjour Walter, bonjour tout le monde.
Vous êtes en direct de Bounia. Dites-nous comment se pose le problème des mineurs en conflit avec la loi à Bounia.
Oui, Walter, le problème des mineurs en conflit avec la loi ici, dans la vie quotidienne et dans un passé récent, certains de ces enfants associés au groupe armé auront commis des infractions qui ne peuvent pas laisser la justice indifférente, surtout qu'on a réhabilité les tribunaux ici il y a un an. Alors, ceux qui sont condamnés par la loi doivent être mis en prison, et pourtant, Walter, la loi congolaise en ce qui concerne les mineurs l'interdit. Voilà le problème.
Mais alors, Rigobert, que dit exactement la loi, ce fameux décret de 1950 sur la justice des mineurs, et combien de cas concrets ont-ils été traités par le tribunal des grandes instances à Bounia?
Oui, Walter, je peux dire que la loi congolaise, comme tu l'as dit, celle de 1950 et qui est toujours d'application de nos jours, définit comme mineur tout enfant de moins de 16 ans. Alors, cette loi, pour répondre directement à la question, interdit de mettre un enfant ainsi défini en prison, mais prévoit trois dispositions pour ce qu'elle appelle la délinquance, c'est-à-dire les mineurs en conflit avec la loi. D'abord, première disposition, l'enfant peut être mis à la disposition du gouvernement. Deuxième disposition, l'enfant peut être gardé dans un établissement de charité publique ou privée jusqu'à un certain âge, jusqu'à sa 21e année, toujours selon cette loi. Et troisième disposition, Walter, l'enfant peut être remis entre les mains des personnes qui en assurent la garde avec l'obligation de bien le surveiller. Bref, il faut des structures appropriées pour ces cas, comme vous l'avez dit. Alors, pour bien des détails, je vous laisse suivre le juge Kambou Mansou Lajamari, qui nous donne aussi le nombre, parce que vous avez demandé le nombre des cas déjà traités. Juge Kambou Mansou.
Bon, écoutez, au courant de l'année qui vient de se terminer, nous avons enregistré un total de 16 dossiers en fausse délinquante. Et sur ces 16 dossiers, 13 ont déjà été jugés et 3 sont encore en cours devant, n'est-ce pas, notre juridiction. Les enfants qui ont été jugés comme auteurs des infractions au courant de cette année ont pratiquement tous été remis entre les mains de leurs parents. Étant donné que nous sommes devant la difficulté de pouvoir exécuter les autres mesures qui sont prévues par ce texte, notamment la mise à la disposition du gouvernement pour leur encadrement, ça c'est des 1, 2, 2, la mesure qui consiste à mettre les enfants dans les établissements publics ou privés de garde, eh bien cette mesure n'a pas été non plus appliquée, étant donné que nous ne disposons pas d'infrastructures dans ce domaine-là. Si bien que, bon, en définitive, tous les enfants ont été pratiquement remis entre les mains de leurs parents et réprimandés, bien entendu, avec l'obligation aux parents de pouvoir mieux les surveiller.
On vient de l'attendre à 16-4 enregistrés, dont 13 déjà classés. Où ces enfants, on vient de l'attendre, le juge nous dit qu'ils ont été remis à leurs parents après réprimande. C'est ce qu'on vient d'entendre, Rigobert.
Oui, ils ont été remis entre les mains de leurs parents. Je voulais suivre maintenant le juge, encore une fois, jusqu'en Bouma.
Aucun enfant n'a été, n'est-ce pas, envoyé en prison. Bon, peut-être gardé préventivement en attendant l'aboutissement de leur dossier, évidemment, compte tenu justement de cette difficulté de ne pas pouvoir disposer d'infrastructures appropriées à cet effet. Bon, l'organe de la loi, à savoir le ministère public, a bien sûr gardé préventivement les enfants jusqu'à ce que les jugements aient intervenu.
Voilà, on a évoqué quand même tout à l'heure l'embarras des juges devant certaines situations. Rigobert, est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas concrets où les juges se sont retrouvés dans l'embarras en fonction des infractions, probablement ?
Oh oui, comme vous venez de l'écouter, malgré eux, ils sont obligés, à cause de la gravité de certaines infractions, de mettre des enfants en prison. J'ai, pour cela, contacté un autre juge, c'est le juge Moulumba Kamba.
En cette matière, nous avons d'énormes difficultés. Pour être plus concret, je voudrais seulement vous dire que j'ai dans ma chambre un dossier où les enfants mineurs ou bien les enfants en conflit avec la loi sont concernés, sont poursuivis des faits extrêmement graves. Il y a notamment l'assassinat, il y a la détention illégale d'armes de guerre, l'extorsion ainsi que les recels. Vous voyez que ce sont des préventions qui sont lourdement punies par notre loi. Prenons par exemple les cas d'assassinat. La peine prévue, c'est la peine de mort, par exemple. Alors, nous nous trouvons devant des situations délicates. Or, la loi nous ordonne pas de mettre de tels enfants en prison. Mais par rapport à la gravité des faits les reprochés, que devons-nous faire? Voilà les problèmes que nous rencontrons dans la profession.
Voilà, Rigobert Yomandouani, par rapport à cet embarras, à l'obligation, si vous voulez, des juges de mettre les enfants en détention, que répondent les organisations de défense des droits de l'enfant au niveau local et international qui sont opérationnelles à Bounia?
Walter, j'ai contacté Marlène de Child Protection de la MONUC à ce propos. Pour elle, il n'est pas question d'envoyer un enfant en prison, quel que soit le cas. Il faut l'envoyer dans une maison spécialisée, alors que pour le moment, il n'y en a pas qui fonctionne. Raison pour laquelle on doit encourager, selon Marlène, une structure qui a existé à Bounia et qui a été obligée d'arrêter à cause de la guerre. On l'écoute.
On est en train de soutenir une ONG locale qui s'appelle Association Aide aux détenus et défavorisés de développer un projet pour rouvrir leur centre de réencadrement pour des enfants qui sont en conflit avec la loi. Nous, on leur donne surtout de conseils. Avant la guerre, cet centre était opérationnel et ça a très bien fonctionné. Mais pendant la guerre, le centre est détruit.
Mais lorsque ce centre sera opérationnel ou fonctionnel, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fera concrètement vis-à-vis des enfants, Rigobert?
Oh oui, Walter, j'ai posé cette question à Marlène, je voulais plutôt écouter ce qu'elle a dit à ce propos.
Oui, le but de ce centre, c'est de réorienter les enfants dans la société ou dans leur communauté. Maintenant, une priorité, c'est de faire la recherche familiale et la réunification familiale dans le cas si les enfants sont séparés de leurs parents, les enfants qui sont en conflit avec la loi. Et à part ça, on organise des activités d'éducation, de récréation et des apprentissages.
Et voilà, on a entendu ce qui a été fait, à rappeler que, quelles que soient les fractions, les enfants ne doivent pas être mis en prison avec les adultes, ils doivent être conduits dans des institutions spécialisées de l'État. Nous aurons des détails sur cette organisation. Les réactions des auditeurs arrivent toujours à ce qui concerne les salaires des enseignants. François Tshibangu de Mbujima, il pense que le gouvernement ne sert à rien, ne fait rien pour les enseignants. Il veut plutôt encourager les enseignants à continuer à éduquer nos enfants, à donner une bonne formation et on verra bien après les élections. Ils vont tous partir et ceux qui viendront après pourront faire quelque chose. René Kayemba de Mbujimayi pense que le ministre a dit que le minimum de salaire sera $50. Avec cela, $50, lui-même, le ministre peut-il vivre? C'est vraiment méchant, conclut René Kayemba de Mbujimayi. Et puis, Paula Mwamba de Lubumbashi réagit comme suit. La décision des évêques est bonne, mais n'arrive pas au bon moment que l'Église tienne compte de la transition. Pour Paulin Mwamba, les parents peuvent continuer à payer les frais au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Marianne Mata, elle est élève et elle regrette beaucoup que notre gouvernement ne prenne pas en charge les enseignants. Déjà, le gouvernement ne fait pas très attention aux enseignants, à commençant par le budget qui a été voté pour le ministre de l'Enseignement. 1% représente quoi pour lui, s'interroge cette élève Marianne Mata. Et elle demande au ministre de se mettre à la place des parents. Un auditeur anonyme de Kinshasa, il veut savoir pourquoi le ministre de l'enseignement, lui, est bien payé, mais ses enfants vont étudier en Europe ou ailleurs, pendant qu'un enseignant gagne 4000 francs congolais, avec 10 enfants ici, il doit payer les études et comment pourra-t-il vivre, s'interroge cet auditeur anonyme. Pierre Mouaka, enfin, de Matadi, le budget 2005 n'est pas encore adopté, êtes-vous sûr que les enseignants pourront toucher leur salaire et qui ne se posera pas de problème après, puisque le gouvernement est toujours en collaboration avec la communauté internationale, est-elle d'accord avec le nouveau budget, essayer de faire quelque chose d'intéressant, propose, suggère Pierre Mouaka de Matadi. Au Capitaction, la deuxième partie est amorcée déjà. Celle fréquente, vomissement, amaigrissement rapide pouvant conduire jusqu'à la mort. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans certains quartiers de Bukavu. C'est le choléra qui refait surface dans la ville. La maladie a commencé dans les quartiers les plus insalubres, des communes surpeuplées comme celle de Kadutu. Mais la maladie est signalée également dans la commune d'Ibanda. Parmi les causes de cette résurgence du choléra, il y a la misère, le manque d'eau potable et surtout le défaut d'hygiène alimentaire et corporelle. C'est pourquoi le médecin inspecteur provincial a envoyé plusieurs messages radiodiffusés pour mettre la population en garde contre la propagation de cette épidémie, car il s'agit bien d'une épidémie. Pour commenter ce sujet, d'abord avoir les informations en direct depuis Bukavu, notre consoeur Astrid Mujinga. Bonjour Astrid.
Bonjour Walter.
Alors, est-il bien établi, Astrid, qu'il s'agit réellement d'une épidémie de choléra à Bukavu, disons dans certaines communes?
Il s'agit bel et bien d'une épidémie, Walter, car selon le docteur Mapengu du service des urgences à l'hôpital général de référence de Bukavu, le nombre de cas enregistrés quotidiennement dépasse le seuil normal. Et cela depuis le début de cette année 2005. Il faut consigner ici, Walter, que ces cas qui sont connus sont ceux des malades qu'on a pu acheminer à l'hôpital. Le docteur Mampeng confirme donc qu'il s'agit bel et bien d'une épidémie de choléra. Et juste après lui, d'ailleurs, Albert Mumbumbu, un professionnel de la santé publique, nous dira quand est-ce qu'on peut considérer une pathologie comme étant devenue épidémique. Et je crois, Walter, que nous pouvons les écouter tous les deux.
Et bien, quand il y a des accès, nous parlons en ce moment d'épidémie. C'est le cas du choléra. Depuis le début de cette année, nous sommes à 156 cas. C'est sérieux la situation actuelle et il faudrait nécessairement qu'on puisse prendre des dispositions pour cela. Mais il faut reconnaître quand même qu'on a toujours, pendant la saison pluvieuse, Et quand il y aura la mini-saison sèche, nous pensons que les cas pourraient peut-être diminuer. C'est effectivement une épidémie, donc il faudrait que notre population essaye de prendre des précautions à travers nous, les professionnels de santé.
Il y a une épidémie lorsque le nombre de cas d'une pathologie sous surveillance dépasse les seuils entendus. C'est-à-dire pour une maladie sous surveillance, par exemple, telle que nous avons le choléra, et si le nombre de cas dépasse le nombre attendu normalement, là on va parler d'une épidémie. Bon, c'est un chiffre qui doit se calculer en fonction des rapports des cas de l'année passée. Actuellement, il doit être une épidémie parce que, avec l'expérience que nous avons depuis 1997, nous savons à peu près combien de cas normalement on devrait recevoir comme une endémie parce que la diarrhée, quelque part, elle est endémique chez nous. Mais avec la fréquence que nous avons aujourd'hui, c'est une épidémie.
Voilà, on vient de l'entendre. Astrid Mujinga, dites-nous par rapport aux signes extérieurs du choléra, qu'est-ce que les professionnels de santé vous ont dit? Question pour tous ceux qui nous écoutent maintenant de pouvoir détecter et se rendre au poste de santé le plus proche.
Oui, Walter, en ce qui concerne cette question-là, je préfère laisser parler M. Malinga Kibungo, qui est infirmier responsable du service des pathologies infectieuses à l'hôpital général de référence de Bukavu. Et il est également responsable du pavillon où sont internés les malades atteints de choléra.
Les signes de choléra sont très bien connus. Il y a d'abord la diarrhée, l'installation brutale et qui évolue vite. Les selles abondantes, les selles d'aspect lésiforme, les vomissements abondants et aussi qui s'accompagnent d'une déshydratation, soit légère, modérée ou sévère. Au moment, nous avons au moins 54 malades qui sont internés, mais encore au moins 22 qui sont conquis. Les autres sont déjà dans une phase d'observation. Nous recevons au moins une moyenne de 14 malades par jour, parce que ça varie entre 12 et 16, nous prenons la moyenne de 14.
Astrid, lorsque vous êtes rendu dans quelques centres médicaux au niveau de Bukavu, avez-vous réussi à parler avec quelques malades?
Effectivement, Walter, je me suis rendu hier dans les après-midi à l'hôpital général de référence de Bukavu. J'ai rencontré des malades. Il y a là-bas 3 salles dans le pavillon réservé à ces patients. 3 de ces malades, dont un jeune homme et un couple, ont raconté leur maladie. Ce sont, comme vous allez vous en rendre compte vous-même, les mêmes plaintes chez tous ces malades.
Sasa nilianza sikia maumivu tumbo, ilianza kata na nikaanza endesha. Nikaendesha, nikaona sasa viungo vyote vinavunjika. Masikio ikafungana. Makanda nikokota mishipa ya mwili. Na ndio vile viliendelea ndio nikakia nakimbilia hapa kudispai tu. Basi nilikia najikaza njuu nilikuwa siyawezewa sana. Sasa nilifika sasa humu ndio nikaona sasa mimi nawezewa siku. Niliendesha mara pili kunyumba, nikakuendesha ingine mara pili mufika sasa hapa kudispa sasa njua anshenema. Mwili yote inaregea, siyapata tele nguvu kwanza ya kusema nitoke hapa na kuenda tapa chini.
Yenji, mangaribi siku ya kwanza, nikaendesha mara pili, nikapuma kujikaza kaza hivi ni zitembeze lende ukazi, kule ukazi nitaenda kunjia, nikaona mwili inaregea, nikarudia kunyumba. Nikaona sasa njoo viungo yote kuregeza endesha make sikuliwa tena kama ni mara ngapi mimi naweza hesabia yeye niliendesha mpaka usiku yote niko naendesha na mwili yote ikakokotana mishipa yote ya mwili ikakokotana nikaanza kama ngozi yote ya mwili itamenyeka.
Donc on peut résumer des fortes diarrhées, selles fréquentes, des vomissements, amaigrissements, affaiblissements aussi. Donc voilà quelques malades qui ont témoigné. Astrid Mujinga, comment est-ce qu'on explique au niveau de l'inspection de la santé ou en tout cas du personnel médical la résurgence de l'épidémie de choléra à Bukavu?
Et Walter, je posais la question au docteur Mampengu du service des urgences à l'hôpital de Bukavu qui est déjà intervenu au début. Pour lui, la misère est pour beaucoup dans cette situation. Et je crois que c'est mieux encore qu'on l'écoute.
Vous savez, les gens doivent se débrouiller par tous les moyens. Il y a des marchés partout, avec des conditions tout à fait déplorables. Les histoires qui sont vendues ne sont pas couvertes. Et alors, les gens sont obligés, avec la faim, de manger n'importe quoi. Donc il faudrait que nous apprenions ou d'utiliser les règles élémentaires d'hygiène pour éviter ces genres d'épidémies. Vous voyez ces marchés-là, les endroits où on vend les aliments. Mais ce sont des gens qui se débrouillent parce que probablement, ces maris qui sont de l'État, qui est marge du budget de l'État, ne touchent plus rien. Ces gens-là sont obligés d'accepter n'importe quelle condition pour pouvoir tenir dans la vie qui est devenue tout à fait compliquée. Je ne pense pas que ce soit nécessairement les gens de la santé publique qui puissent résoudre ce problème. Il faudrait qu'on puisse réunir tous les secteurs de la vie publique, qu'on puisse voir comment on peut résoudre ce problème. Tant qu'on n'a pas fait cela, il y a toujours des épidémies. Il y a les milieux où il y a une forte concentration de la population, à Nyamogo, à Chai, mais il y en a aussi à Uganda. Mais il y a aussi un problème, comme je disais, problème multisectoriel. Il y a de l'eau qui coule en quittant certains milieux, l'eau de toilette, ça coule à travers la rue et n'importe comment. Et les gens sont obligés, parce qu'ils n'ont pas de moyens, d'utiliser cette eau-là, parfois même pour la lessive. Et nous pensons qu'il faudrait qu'on aborde ce problème dans plusieurs angles. C'est un problème où nous pensons que c'est un gouvernement responsable qui pourra arriver à y mettre fin.
Voilà, docteur Mampengo du service des urgences à l'hôpital général de référence de Bukavu, au sud de Kivu, est de la République démocratique du Congo. Astrid, dites-nous si le personnel soignant maîtrisé, si vous voulez, les causes de cette épidémie de choléra, quelles sont les mesures qui ont été prises par les professionnels de la santé au niveau provincial pour faire face à l'épidémie de choléra?
Oui, Walter, nous avons déjà lancé plusieurs communiqués ici à la radio en provenance du médecin inspecteur provincial. En fait, le médecin inspecteur, comme je venais de le dire, a lancé plusieurs communiqués ici, demandant à la population de Bukavu de respecter certaines règles d'hygiène, comme par exemple se laver les mains avant de consommer quoi que ce soit, laver suffisamment et à grande eau toutes les crudités et les fruits avant de les consommer, cuire suffisamment tous les repas, bouillir l'eau à boire, même l'eau sortant du robinet, bien couvrir tous les repas et les prendre chauds de préférence, maintenir les toilettes dans une grande propreté, amener tous les cas déclarés à l'hôpital général où ils sont directement pris en charge, et enfin enterrer directement les dépouilles mortelles des malades décédés et sans procéder au nettoyage de leur corps. Ce sont là, Walter, des mesures qu'on demande à la population de respecter pour éviter une grande propagation de cette maladie. Mais comme le docteur Mampengo l'avait déjà souligné, c'est un problème multisectoriel qui nécessite l'intervention des responsables plutôt dans plusieurs domaines, Walter.
Mais Astrid, parmi certaines mesures, vous avez dit notamment enterrer les dépouilles mortelles des malades décédés de choléra sans la toilette mortuaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des décès déjà et combien a-t-on enregistré depuis le début de l'épidémie?
Oui, Walter, selon les professionnels de santé trouvés sur place par l'hôpital général de référence de Bukavu, on a enregistré jusque-là deux cas de mort, bien sûr, parce qu'on avait emmené ces malades à l'hôpital dans un cas et déjà désespéré. Mais je crois que c'est plutôt le médecin inspecteur provincial qui peut se prononcer et là-dessus, je crois. Et Walter, je vous signale que le médecin inspecteur provincial est déjà ici avec moi. Il pourra intervenir pour donner de plus amples informations là-dessus.
D'accord, on enchaîne tout de suite avec le médecin inspecteur qui va nous donner plus de détails. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors nous parlons de cette situation qu'on qualifie d'épidémie. La première question que je vous pose, la résurgence du choléra telle que ça se déroule actuellement à Kadutu principalement et dans d'autres communes de Bukavu, est-ce qu'on peut parler d'épidémie docteur?
Oui, je crois que à la lire actuelle des choses, on a commencé à parler d'un problème de santé publique, puisque nous, disons, au niveau technique, on n'a pas encore fait une déclaration officielle de l'épidémie, puisque ce sont les autorités politico-administratives qui doivent déclarer. Mais techniquement, on parle d'une flambée épidémique des cas de choléra. Ça signifie qu'il y a il y a anormalement des cas de choléra qui simule encore une situation d'épidémie, mais qui n'est pas encore une épidémie véritable.
Est-ce que ce n'est pas encore une épidémie véritable parce que tout simplement, formellement, l'autorité politico-administrative ne l'a pas encore déclaré?
Non, ce n'est pas pour ça, c'est par rapport au nombre de cas.
Mm-hmm.
C'est par rapport au nombre de cas.
Et combien de cas sont pris en charge actuellement, docteur?
Pour le moment, maintenant, je crois, la dernière semaine, on a eu 84 cas dans la ville de Bukavu, éparpillés sur toutes les différentes communes de Bukavu. Et c'est ça la dernière notification.
Mm.
Je sais que le problème qui se pose, c'est que c'est un problème général, puisque les problèmes concernent non seulement la ville de Bukavu, mais ça concerne aussi la ville d'Uvira et ses environs. Ça concerne aussi Katana, l'axe de Katana, Iji. Bon, on dit même que ça concerne maintenant le Nord Kivu. D'autres parlent même des villes environnantes, notamment Bujumbura. Donc voilà, c'est vraiment une flambée épidémique. Peut-être ce qui est vrai, c'est que s'il n'y a rien qui est fait dans l'état actuel des choses, on va sans doute évoluer vers une épidémie.
Qu'est-ce qui doit être fait pour éviter que ça évolue vers une épidémie, docteur?
Bon, jusque-là, effectivement, on a essayé de prendre certaines dispositions. Nous avons essayé d'organiser. D'abord, nous avons confirmé le diagnostic du choléra pour être sûr que c'est vraiment le choléra dont il s'agit. Nous avons essayé d'organiser la prise en charge des différents malades au niveau des structures formation sanitaire qui sont dans les zones qui sont concernées. Nous avons entrepris une campagne de sensibilisation dans toute la communauté pour que toute la population puisse s'impliquer dans la prévention de cette maladie qui, comme vous savez, est une maladie qu'on classe parmi les maladies des mains sales, entre guillemets.
Docteur, dites-nous, est-ce que c'est cette flambée, c'est cette épidémie qui arrive, elle vous a surpris ou c'était prévisible?
On peut pas parler de surprise, c'était prévisible. Quand on voit les bulletins épidémiologiques, je crois qu'on en parle aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle de manière un peu avec un ton particulier. Mais quand on analyse les bulletins épidémiologiques, on a commencé à parler du cas de choléra depuis la 38e semaine de l'année 2004, où ça concernait d'abord la partie de Vira, et il y avait même à un moment donné une forte mobilisation des agences onusiennes pour aller aider Uvira. On l'a fait aussi à Calais, sur l'axe Calais. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on avait espéré que ça pouvait se calmer. Mais parallèlement, on a quand même constaté des cas sporadiques à Bukavu, notamment à partir de la 45e semaine de l'an 2004, où on avait parfois 5 cas, 4 cas, 10 cas. Donc il y avait toujours une certaine constance dans la notification des cas de choléra.
Oui.
Mais les choses ont explosé finalement à la dernière semaine de l'année.
Mais docteur, au stade actuel, est-ce que vous avez les moyens et la logistique nécessaires pour faire face?
Justement, je crois que c'est là qu'il faut se poser un peu des problèmes. Et quand on analyse la situation sur le terrain, nous avons l'impression qu'il nous faut encore mobiliser suffisamment de ressources pour renforcer les capacités de prise en charge des cas au niveau des structures sanitaires et surtout pour permettre une évacuation facile des malades. Parce que le choléra, il se soigne, mais il faut que les malades arrivent à temps à l'hôpital et il faut qu'il y ait des trains nécessaires pour les soigner. Et nous avons aussi d'autres difficultés, c'est qu'il faudrait quand même qu'il y ait une forte mobilisation pour que la population puisse contribuer à la prévention de l'expansion de cette maladie. Et enfin, le troisième gros problème, c'est l'assainissement du milieu. Il me semble que les conditions actuelles du milieu ne permettent pas vraiment une protection maximale de la population. Il faut qu'un effort soit fait dans l'assainissement du milieu, notamment dans les cités comme Kadutu, où les constructions anarchiques facilitent à transmission de cette maladie.
Ça va être ma dernière question. Je vais peut-être vous demander d'y répondre en swahili. C'est le message traditionnel, un rappel de, parce que vous avez dit, il faut que la population participe à se prendre aussi en charge, à se mettre à l'abri de ce choléra. Wakaji kando kando Bukavu Uvira na mahali pengine ambao wanatusikiliza, wafanye nini makusudi waweze kuepuka wasije wakashikwa na ugonjwa huu ya kipindupindu?
Ya kwanza ya lazima sana yenyewe wanapasha fanya ni kusema inafaa kila mtu ajue kukinga fasi ana makao yake. Inafaa kila mtu anajua kufuata kuheshimia regli za usafi. Na inafaa kila mtu ajue jinsi ya kutupa uchafu, achimbe shimo ya yenye atatia uchafu pembeni ya kwake. Ile ni yenye ina ile banaita yalala, inafaa kila jamaa itengeneze yalala, kila jamaa ichimbe shimo kubwa sana juu ya ile wanaita WC, na iweze kuepusha chakula yote yenye itakuliwa na vidudu ambao vinaweza kutoka kuyalala au WC, ile wanaita mamushe mfanza.
Nafahamisha wasikilizaji kama wewe ni Dr. Bisimwa, mwenyekiti wa jimbo la Kivu Kusini kuhusu masuala ya afya. Je rappelle donc aux auditeurs que vous êtes Dr. Bisimwa, médecin inspecteur provincial au sud de Kivu. Avec vous, nous commentions cette flambée épidémique de choléra. C'est votre propre terme. On ne parle pas encore d'épidémie, mais vous avez observé une flambée épidémique de choléra dans la ville de Bukavu et ses environs. On est d'accord sur le terme, docteur?
Oui, d'accord, tout à fait d'accord avec vous.
Voilà, parfait. Je vous souhaite plein succès pour la riposte à donner à cette flambée épidémique de choléra qui frappe aux portes de votre province de santé. Merci beaucoup et bonne journée à Bukavu.
Ok, merci et bonne journée à vous.
Au revoir. Vous êtes nombreux à réagir par rapport au sujet qu'on a proposé en ouverture du magazine Okapi Action aujourd'hui, à savoir la prise en charge des enseignants par les parents. Paul et Odiane nous ont envoyé un message sur notre adresse email action@radio-okapi.net. Paulin Odiane pense que la prise en charge des enseignants par les parents doit prendre fin parce que cela discrédite davantage l'État congolais. Il nous semble qu'il n'y a pas un gouvernement au Congo. Dans les jours qui viennent, ce pays sera dirigé uniquement par les enfants des ministres et des PDG parce que leurs enfants étudient en Europe. Fin de citation, c'était la réaction de Paulin Odiane. D'autres réactions des auditeurs, écoutez.
Oh, je suis Andolo, monsieur Chunga. Si vous dites que nous, les parents, nous supportons les Minervales, mais pour moi, je ne suis pas d'accord. Le frais de prise en charge, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas à mesure de supporter la prise en charge de maîtres. Moi je ne suis pas à mesure de supporter ça.
Okapi, c'est vous.
Vous avez été nombreux à réagir, monsieur José Dubois-Congo. Comprenez-vous, monsieur le ministre, l'ampleur de la souffrance des enseignants et des parents? Alors, à quoi sert le gouvernement? S'interroge José, qui vient de nous appeler Dubois-Congo. Notre auditeur a réagi, je vous propose de l'entendre.
Je m'appelle bien, je suis à l'université. Je voudrais savoir, quel est le projet du ministre d'abord de l'enseignement sur le plan éducationnel? Et je voudrais d'abord demander au gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement imagine? Un parent qui n'est pas payé pendant 10 mois, qui reçoit 3000 fois à la fin de l'année, et on lui demande de payer 20 dollars pour l'enfant, il a 5 enfants, 3 à l'université, qui fait 100 dollars. Vous imaginez, c'est normal, ils vont manger comment? Les enfants se vêtent comment? Et en cas de maladie? Alors on ne sait pas, les ministres ne s'intéressent pas, pourquoi? Parce que leurs enfants étudient en Europe. Et les 24, un jour où on peut diriger, il faut que les enfants disent bien pour qu'ils continuent à diriger et nous embêter.
Okapi.
Okapi. Le Congo à l'écoute.
Nous vous écoutons et nous vous laissons parler. Paulin Odiane, donnez encore. Il dit bonjour Walter. Oh, ma farce, c'est moi Walter.
Paulette Odiane qui vient d'effectuer un voyage à Isiro et c'est là pendant 2 semaines et demie. La ville de Isiro connaît actuellement tant de maux et il veut nous demander s'il n'y a pas moyen que nous puissions organiser une émission avec lui et sur ce qui se passe à Isiro. Oui, Paulette. Pourquoi pas, on va vous appeler, heureusement que vous avez laissé un numéro de téléphone pour revenir aux préoccupations des auditeurs sur cette question de la suppression, la prise en charge des parents, le gouvernement qui devra le faire. Je vous propose d'entendre notre auditeur.
Kassereka, je vous appelle de Matadi. Oui, ma réaction c'est surtout en rapport avec l'enveloppe substantielle à laquelle le ministre a fait allusion tout à l'heure. Il a dit que c'est passé de 2 milliards à 5 milliards, si je me trompe. Alors, je me rends compte qu'il y a une augmentation d'au moins 150%, si mes calculs sont vraiment justes. Alors, ma préoccupation est la suivante. Lorsque l'enveloppe était de 2 milliards, attaché au bureau de première classe que je suis, on me payait au moins 3 000 quelque chose de francs congolais ici à Matadi. S'il y a une augmentation de 150%, donc je peux toucher dans les, je sais pas moi, 7 500 francs congolais. Est-ce que vous imaginez que un attaché du bureau de première classe que je suis, toucher 7 500 francs congolais, qu'est-ce que ça peut vraiment valoir? Par rapport à certaines écoles privées organisées, qui aujourd'hui, un attaché du bureau touche au moins 300 dollars. Et puis, avec l'intervention des parents, je sais que nous touchons déjà au-delà de 150 dollars. Et aujourd'hui, si on revenait avec le paiement dans la famille de l'État, on risque encore de revenir dans les 7 500 francs congolais. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce contraste-là risque vraiment d'être vraiment révoltant? C'est ainsi que nous demanderions au ministre ou au gouvernement congolais, si jamais il tenait à retirer la prise en charge, alors il faut qu'il nous garantisse qu'on doit nous payer au moins 200 dollars. Si ce n'est qu'en termes de francs congolais, en tout cas, là, nous ne sommes pas d'accord pour cette maudite, pour cette, je ne sais pas moi, salaire de misère, pour cette salaire de, ce salaire d'Égypte, je ne sais pas moi comment je fais le calcul. Voici mon intervention.
Okapi. Okapi à Kinshasa, sur 103.5 FM.
Des auditeurs qui interviennent sur cette question ô combien cruciale de la prise en charge des enseignants par les parents. Beaucoup de réactions sont arrivées et continuent à arriver sur notre téléphone. Je vous en propose une autre.
C'est M. Moulongo Rachidi. Oui, je crois que les enseignants ont beaucoup souffert dans ce pays. Il faut que, à partir du budget de l'État, qu'on pense à eux.
Okapi, action 081 89 0 68 90. Okapi.
La dernière réaction disponible pour l'heure de notre auditeur sur cette question de la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents. Ils évoluent tous dans le même ordre d'idées. Suivez plutôt.
J'ai dit que Poli de Pimboujimaï. Je voulais dire ceci, puisque j'ai entendu M. le ministre dire que l'enveloppe salariale est passée de 2 milliards à 5 milliards pour les enseignants. Bon, moi, je crois qu'il ne doit pas parler en termes de l'enveloppe salariale de manière globale. Puisque quand on voit cela, par des petits calculs, on voit qu'il y a une augmentation de 150% seulement. Ça veut dire qu'un enseignant qui pouvait toucher 4 000 francs doit aller actuellement à 10 000 francs. Est-ce que trouve-t-il que cela est suffisant?
Des réactions, des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas à le faire. Toutes ces questions vous touchent, vous concernent. On en parle tous les jours sur Radio Okapi dans Okapi Action de 9h02 à 11h, heure de Kinshasa, sur la fréquence de la paix. Vous qui êtes dans le monde entier, vous nous suivez en direct sur Internet sur www. www.radioocapi.net. Cherchez l'icône direct, vous allez nous trouver maintenant. Ou alors, allez sur la partie action, vous lisez le résumé des sujets par jour et après vous cliquez sur écouter et vous avez l'émission de la veille. En attendant, on va continuer pour l'autre sujet du magazine d'aujourd'hui. Une dernière réaction d'un auditeur que j'avais pas vu tout à l'heure, Bikoko de Mbandaka, sur cette question des enseignants. Il donne raison aux enseignants parce que nulle part au monde les parents prennent en charge les enseignants. Le gouvernement doit prendre en charge ses responsabilités, revoir à la hausse leur salaire pour éviter les détournements de fonds de l'État avec le temps, écrit-il. La situation pourra s'aggraver, ils vont chercher encore des solutions par pour des si petits problèmes, s'interroge Bikoko de Mbandaka. Autant de questions, autant de réactions. Merci de le faire. Merci de continuer à le faire.
Okapi. Okapi, à Butembo, sur 92.9 FM.
Plus de 800 travailleurs se retrouvent au chômage à Mangina. C'est une localité qui est située à 30 km à l'ouest de Beni. S'il faut dire, à près de 70 km de Butembo, la société qui les employait, dénommée Dara Forêt, vient de fermer ses portes, installée à Mangina. Pour la petite histoire, en 1999, un groupe d'actionnaires thaïlandais et congolais ont créé une société privée à responsabilité limitée avec comme principal objectif l'exploitation et la transformation de bois. Avec cette faillite, 800 travailleurs et leurs dépendants, évidemment, souffrent. Pour plus de détails, tout de suite, en direct de Butembo, Étienne Mouilo est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour Walter.
Étienne Mouindo, pouvez-vous nous situer Dara Forêt et nous présenter cette société à faillite, à nos auditeurs surtout?
Oui, Walter, Dara Forêt, né à Mangina, c'est une cité située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Beni, donc quelques 75 kilomètres à l'ouest de Butembo. Et cela, donc, la société est née grâce à la volonté de 5 actionnaires. Et donc, parmi ces actionnaires, il y a des Thaïlandais, mais aussi des Congolais. Et pour côté thaïlandais, donc, on peut citer la Royal Star Holding, représentée par M. Supit Kothiram, sujet thaïlandais, avec 55 parts. Et John Supit lui-même, de nationalité thaïlandaise, avec 5 parts. Monsieur Amani Black, congolais, avec 20 parts. Monsieur Boulet Sawasawa, congolais, avec 10 parts. Et enfin, Monsieur Paluku Kamate Roger, qui est aussi de nationalité congolaise, avec 10 parts.
Mais comment sa situation a évolué, où elle évolue aujourd'hui, parce qu'on apprend qu'elle est en faillite?
Oui, justement, la société n'existe plus que des noms, car certains engins, notamment des tracteurs, ont même été déplacés, donc amenés à Ouganda, à l'insu des associés congolais. Et le personnel lui-même, comme vous l'avez souligné au début, est estimé à 800 personnes, ainsi que leurs dépendants sont en congé technique.
Quelles ont été les raisons de la fermeture ou de la faillite de cette société?
En fait, un audit a été mené au sein de la société par un expert comptable, c'était le 10 décembre de l'année dernière, pour connaître les raisons de la faillite. L'expert a conclu qu'il n'y avait pas de bilan de démarrage, pas d'inventaire annuel non plus, pas d'assemblée annuelle en vue de discuter du bilan pour le partage des dividendes. Bref, c'était une mégestion organisée par le DG qui est Monsieur John Supit Kothiram.
Il y a 800 employés en jeu dans cette histoire rocambolesque. Qu'en est-il des salaires de ces 800 personnes?
Oui, les travailleurs justement acquisent plus de 20 mois d'arriéré des salaires. La société n'a pas non plus honoré ses engagements vis-à-vis de l'État congolais.
On va chercher à savoir un peu plus tout à l'heure avec quelques intervenants, notamment M. Sawasawa et puis peut-être probablement Nzanzu Valinandi, directeur adjoint de Dara Forêt, dans les minutes qui suivent. Merci Étienne Mouindo.
Oui, c'est moi qui vous remercie, Walter.
Au revoir.
Okapi, le souffle du Congo. Okapi.
une société qui ferme ses portes, des engins de travail qui sont expédiés presque à catimini du Congo vers l'Ouganda, 800 personnes qui n'ont pas reçu de salaire en 20 mois, c'est presque 2 ans, si vous voulez, il ne reste que 4 ans pour qu'ils totalisent 2 ans d'arriéré de salaire, et puis une société qui ferme ses portes sans avoir honoré ses engagements vis-à-vis de l'État congolais. Que s'est-il passé au juste? C'est la question probablement qui vous trotte dans la tête maintenant. Une question qui nous préoccupe aussi. Nous allons essayer de savoir ce qu'il en est exactement avec quelques-uns des intervenants prévus pour ce sujet. Est-ce que nous allons offert en attendant d'y arriver, c'est que nous faisons toujours honneur aux auditeurs de Okapi Action et nous avons reçu un courrier d'un auditeur de Lubumbashi, il s'appelle Richard Ramani. Cet auditeur, lui, est inquiet du fait que en ce mois de janvier, il y a eu beaucoup de jours sans travail. Parce que, écrit-il, il y a des souvenirs qui sont importants dans un pays et que l'on ne peut pas facilement oublier. Mais est-ce que nous devons vraiment reporter les jours de l'événement parce que l'événement tombe un dimanche et faire chômer une population qui vit au jour le jour et interdire formellement aux gens de ne pas vaquer à leurs occupations durant 4 jours, n'est-il pas possible de commémorer des jours pareils sans fermer les activités? C'est Richard Ramani qui s'interroge encore, parce que de toute façon, écrit Richard Ramani, la population vit dans la misère et elle est obligée de vivre au jour le jour. Richard Ramani est inquiet, parce que il comptabilise pour ce mois de janvier, il dit, nous avons un jour de martyr, le 4 janvier de chaque année, et maintenant il y a le 16 et le 17. Mais voilà qu'il y a un jour qui s'est augmenté le 15, donc en bref, depuis le 14 jusqu'au 18, nous n'avons rien fait pour un pays qui se recherche. Richard Ramani conclut en disant que c'est la mort de la population. Et il dit, Monsieur Walter, merci pour le travail que vous faites d'ailleurs, et très bien, il nous en félicite. Non, mais Walter n'est pas seul, c'est toute une équipe derrière, Jody Keshama et les autres, et toute l'équipe des Okapi Action. Donc, Richard Ramani, en substance, qui s'inquiétait du fait que l'État devrait organiser les jours fériés de façon à ne pas envoyer les gens en congé comme ça, parce que les jours fériés tombent un dimanche, qu'il faut les amener un peu plus avant. C'est un auditeur qui a écrit, et par respect pour son temps et pour son amour, pour cette radio, il nous était important d'en parler. Donc, des réactions sont arrivées très nombreuses sur cette question de la prise en charge des enseignants par les parents, la toute dernière du magazine d'aujourd'hui.
C'est Roger Makwala de la régie des Omatadi. Je vous téléphone à partir de Matadi. Je voudrais réagir sur le sujet dont vous parlez, d'enseignants. Vous savez, l'éducation, c'est vraiment la base de tout dans un pays. Et nous sommes dans le regret de remarquer que les enseignants sont parmi la catégorie sous-traitée au niveau de notre pays. Et nous devons beaucoup prier pour que nos autorités aient la tâche facile à leur tour pour pouvoir maîtriser la situation des enseignants. Il y a l'enseignement, l'armée, puis le domaine médical. Ce sont là les trois domaines qui font qu'un pays puisse aller de l'avant. Donc les enseignants n'ont pas du tout tort de pouvoir réagir. Nous savons que nos autorités ont la bonne foi et auront toujours la bonne foi de pouvoir faire quelque chose pour nos enseignants.
Voilà, c'est la fin du magazine Okapi Action. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. Je suis Walter Molondi. Il me tarde de vous retrouver demain, 9h02, heure de Kinshasa, toujours avec le même plaisir.